franceinter.fr.
De précieux diamants à la une de la science, aujourd'hui ceux de la météorite Alma Ata Sita qui seraient les vestiges d'une planète disparue.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine.
Like a diamond in the sky, Rihanna et ses diamants venus du ciel pour évoquer cette découverte à la une. En 2008, plus de 2 kilos de fragments issus de la météorite Alma Ata Sita tombés dans une zone désertique du Soudan sont ramassés. Une étude dévoilée la semaine dernière indique que des tout petits diamants inclus dans cette météorite proviendrait d'un monde disparu, d'une planète ancienne de notre système solaire, aujourd'hui totalement disparue. Une belle histoire où l'infiniment petit laisse entrevoir le très grand et dont nous parlons, Axel Villard, à la une avec l'une des auteurs de cette étude.
Oui, Daniel, nous sommes en ligne avec la physicienne Cécile Hébert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et spécialiste de microscopie électronique. Car ces petits diamants que vous avez étudiés sont tout petits. Quelle taille font-ils à l'intérieur de la météorite ?
Alors, ils font quelques centaines de micromètres, donc à peu près la taille d'un cheveu. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, vous dites qu'ils sont tout petits. Pour nous, on les trouve très très grands.
Ils sont grands par la quantité d'informations que vous trouvez dedans, puisque vous arrivez à déduire la présence d'une planète, sa taille et qu'elle a disparu. Ça fait beaucoup d'informations. Alors comment vous faites ?
Alors c'est un petit peu un travail de détective. On travaille sur des indices, puis on essaye de recouper un petit peu les indices qu'on a. Comme souvent aussi, c'est en recherche, c'est un travail qui est fait de coups de chance et puis c'était pas forcément ce qu'on était parti chercher. Faut pas imaginer qu'on s'est réveillé un matin en se disant tiens, on va regarder une météorite et puis dans cette météorite, on va montrer qu'il y a des diamants et que dans ces diamants, on va pouvoir montrer qu'on a la trace d'une planète disparue.
Mais alors, qu'est-ce que vous regardez avec votre microscope électronique dans ces diamants précisément ?
Alors précisément, on essayait d'étudier la structure du diamant. Donc c'est une météorite qui fait partie d'une famille de météorites dont on sait qu'elle ne vient pas d'une des planètes telluriques du système solaire et qui contient des formes de carbone, donc du diamant, puis du graphite, qui servent le carbone qu'on a dans les mines de crayons, des choses comme ça. Et on essayait de comprendre la relation entre les deux et... Comme on développe aussi en microscopie des techniques d'analyse particulières pour séparer ces formes de carbone, il y a un doctorant une des tâches annexes, c'était de regarder ça et puis d'essayer de voir si on pouvait voir différentes formes de carbone. On n'a pas finalement... C'était un peu décevant de ce côté-là. On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Mais c'est là que lui, il a vu, en cherchant à l'échelle nanométrique, des petites particules étranges dans ces diamants, des tout petites inclusions. Alors là, cette fois, qui font quelques dizaines de nanomètres.
C'est parce que là, on donne beaucoup de détails, mais il faut quand même qu'on arrive à cette idée que cette météorite proviendrait d'une planète disparue, d'une planète qui serait apparue dans le système solaire il y a combien de temps ?
À peu près à la formation du système solaire, donc il y a 4 et quelques milliards d'années, et qui aurait disparu assez rapidement dans les premiers temps de la formation du système solaire. Où justement, on avait après l'accrétion de particules en plus grosses, de petites particules en plus grosses particules, pour devenir après vraiment des objets de plus grande, de taille de plus en plus grande, plus d'objets qui circulaient, puis qui pouvaient s'entrechoquer, presque, je sais pas, on avait un genre de partie de flipper planétaire, ou quelque chose comme ça, et puis certains qui ont pu être éjectés du système solaire ou précipités dans le soleil, détruits par des impacts, etc.
Mais elles étaient nombreuses. Ces planètes à l'époque qui ont aujourd'hui disparu et qui participaient à cette partie de flipper géante ?
C'est une bonne question. c'est un travail collaboratif, donc c'est plutôt une question où on aurait une réponse définitive par les collègues qui sont les planétologues. Mais de toute façon, il n'y en avait pas des milliers. Hein. C'est plus, ça va rester de l'ordre de grandeur de quelques dizaines. Mmh. Puis on ne sait pas non plus exactement lesquels. On va pas remonter à leurs traces.
Mais Cécile Hébert, ça doit faire vraiment très bizarre de tenir un caillou qui provient d'un autre monde. À quoi il ressemble à l'œil nu ? Est-ce qu'on voit les petits diamants déjà ?
Non.
Ils sont trop petits ?
C'est trop petit. Et puis finalement, on voit un caillou qui a... Oui, on sait qu'il est extraordinaire, mais pour un néophyte, il n'est pas forcément distinguable facilement d'un autre caillou ou d'une autre météorite ou même d'un autre caillou. C'est un assemblement de petites particules, de petits cristaux. C'est solide. On voit pas des grands diamants qui brillent ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment quand on va chercher dedans, quand on va regarder dans le détail à l'intérieur de cette particule, de ces diamants, pour donner une idée de l'ordre de grandeur de où on va chercher. Donc on a réussi à remonter au fait qu'il y a une planète qui fait plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Ça, c'est à partir d'un bout de météorite qui fait quelques centimètres de diamètre.
Mmh. Oui, c'est vertigineux de voir ce qu'on arrive à faire dire à ce caillou.
Maintenant, entre les deux, il a fallu diviser 7 fois par 10. Bon, maintenant, de la taille du caillou à la taille des objets qu'on a regardés dedans, on a encore divisé 7 fois par 10.
Il y a une dernière question qu'on est obligé de vous poser, parce que ce que vous racontez sur cette planète disparue fait beaucoup penser à un autre corps disparu, lui aussi de l'histoire du système solaire. C'est cette planète qu'on estime de la taille de Mars et qui est venue frapper la Terre pour former la Lune, à peu près il y a 4 milliards d'années. Est-ce qu'il est possible que ces deux planètes soient la même ?
Alors, c'est une bonne question. Je dois avouer que je me l'étais pas posé moi-même. À nouveau, c'est un travail de collaboration. C'est mes collègues planétologues qu'il faudrait venir poser cette question-là. Moi, je suis plutôt du côté des détectives qui ont vraiment, qui sont remontés de ces toutes petites inclusions pour petit à petit arriver à expliquer comment elles ont pu se former et dire bah, ça n'a pu se former que par une énorme planète.
Et justement, d'un point de vue détective, qu'est-ce qu'il faudrait aller regarder pour essayer d'avoir la réponse, alors ?
Il faudrait analyser plus de météorites de ce même type-là, regarder un petit peu aussi des compositions chimiques. Est-ce qu'on arrive par des compositions d'éléments à voir remonter les mêmes éléments ou est-ce qu'il y a des similarités avec les éléments qu'on trouve dans la Terre et la Lune. On sait que là, elles sont jumelles, c'est la même chose. Et puis voilà, peut-être ce travail de détective. Peut-être
l'enquête
qu'un planétologue me disait... Ouais, exactement, peut-être qu'un planétologue me dirait, on a la réponse.
Merci Cécile Hébert d'être venue nous parler de cette planète disparue. Et Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'homme détruit les grands mammifères qu'il côtoie depuis sa sortie de l'Afrique il y a 125 000 ans. Des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique ont reconstitué la distribution géographique des plus grands mammifères du passé au fil du temps. Mammouths, rhinocéros laineux, tigres à dents de sabre ou encore paresseux géants, tous ont décliné lorsque l'homme moderne est entré dans leur territoire. Et ceux qui ne disparaissaient pas ont vu leur taille se réduire drastiquement. Chercheurs pessimistes estiment dans leur papier qu'au train où vont les choses, d'ici 100 ans, le plus grand mammifère terrestre encore vivant sera la vache. La première transplantation réussie d'un pénis et d'un scrotum a été annoncée hier par l'université John Hopkins. L'opération très complexe a duré 14 heures et a nécessité l'action conjointe de 9 chirurgiens plasticiens et de 2 urologues. Un pénis entier, une partie de la paroi abdominale et le scrotum sans les testicules d'un donneur décédé ont été greffés. Cette opération lourde a impliqué la transplantation de peau, de nerfs, de muscles, de tendons et de vaisseaux sanguins. Le receveur en voie de guérison, selon le communiqué, devrait d'ici quelques mois recouvrer les fonctions urinaires et érectiles quasi naturelles. Et pour terminer, allons voir les cellules migrées en vidéo. Une nouvelle technique d'imagerie mise au point par le chercheur Eric Betzig en Californie permet aujourd'hui de voir en temps réel et dans un organisme vivant le balai des cellules. Baptisée LTTM, cette technique est un pas de plus dans l'imagerie in vivo non invasive. Pour vous rendre compte par vous-même des résultats étonnants et du niveau de détail de ces images, nous avons mis sur la page Facebook de l'émission la vidéo d'une cellule immunitaire de poisson zèbre qui migre à l'intérieur de l'oreille interne.